comment vous choisissez, vous, les spectacles, votre programmation?
Chaque année, il y a environ 70 à 80 spectacles qui sont choisis. La programmation, c'est le directeur qui l'a fait. Donc ici, c'est Jean-Paul Angot, qui est programmateur, qui n'est pas artiste. Après, c'est du gros boulot, parce que là, il y a plusieurs manières de faire pour choisir des spectacles. Soit il va à Avignon, notamment, qui est le gros festival de spectacles vivants qui a lieu tous les étés au mois de juillet. Là, il va faire son marché, entre guillemets. Ça, c'est une première solution. Ensuite, pendant toute l'année, il va avoir des spectacles, parce qu'il n'y a pas que Avignon hein, non plus, il y a quand même beaucoup de structures qui sont dans le coin ou ailleurs en France. Parfois, il va à Paris, à Lille, à Brest, etc. Il va un peu sur les routes pour aller voir des spectacles. S'il aime bien un spectacle qu'il a vu à Brest, par exemple, au mois de janvier, donc là maintenant, admettons, j'ai vu spectacle, ça m'intéresse, il rentre en lien avec la compagnie, alors pas forcément lui, mais les assistants avec qui il travaille. Donc moi, j'aimerais bien que ce spectacle passe à la MC2 pendant la saison 17-18, donc la saison de l'année prochaine, en septembre. Comment ça se passe? Combien ça coûte? Si on veut faire 2 représentations ou si on en fait 10? Ben voilà, proposez-moi des tarifs, des devis, des contrats, etc. Et puis vos disponibilités. Donc il y a aussi le casse-tête chinois entre la disponibilité des compagnies, la disponibilité de nos salles par rapport à l'accueil que ça va prendre au niveau de l'espace sur le plateau. Donc je vous explique même pas, c'est très compliqué. Et donc là, il est en train, on est en janvier, et il est en train, a priori, si tout va bien, parce que je ne le sais pas du tout, il est en train de fignoler la programmation des spectacles 17-18. C'est beaucoup d'anticipation. Après, il y a aussi le choix, pour reprendre aussi votre question, quand il fait sa programmation, il peut aussi se dire, tiens, La Vertige, par exemple, il y a une semaine, il n'existait pas encore. Moi, j'ai vu la première du spectacle mercredi dernier. Et là, vous me dites, bah, comment il va faire? Comment il a fait pour acheter le spectacle, en fait, alors qu'il n'existait même pas? Là, il y a des relations en fait assez précises qui se font avec certaines compagnies, et c'est des relations de confiance aussi. Le metteur en scène de Vertige, c'est quelqu'un qui s'appelle Nasser Djemaï, qui vient d'ici, lui pour le coup en plus, qui vient des Chirols d'ailleurs, et qui connaît très bien Jean-Paul Angot. Il a déjà été programmé avec trois autres spectacles en fait dans les années précédentes. Donc il y a une relation de confiance qui s'est installée. Jean-Paul aime bien ce que Nasser Djemaï fait, et il y a peut-être 2 ans, Nasser Djemaï a dit à Jean-Paul, ben voilà, j'ai un projet de spectacle pour la saison 16-17, je suis en train d'écrire le texte, parce que c'est vraiment Nasser qui a écrit, c'est pas comme Molière où le texte existe déjà depuis longtemps, là c'est vraiment lui qui a écrit, est-ce que tu serais ok pour me faire confiance et pour m'acheter le spectacle? Là je l'écris, j'ai pas encore toute la distribution, j'ai pas encore choisi tous les acteurs, etc. Et est-ce que aussi, non seulement est-ce que tu peux m'accueillir, mais est-ce que tu peux aussi soutenir la création? Donc là, c'est des termes un peu compliqués pour tout simplement dire que quand on fait un spectacle pour le fabriquer, il faut répéter. Et ça va bien de répéter dans son garage un peu. Il faut aussi à un moment des vraies conditions de salle de spectacle, de travail avec des projecteurs, des techniciens et tout ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que là, ça a joué pour la première fois mercredi dernier. Mais c'est depuis le mois de décembre que la compagnie est là pour répéter dans la salle. Donc ça veut dire aussi que pendant un mois, nous, on n'a pas programmé d'autres spectacles pour laisser la place à la création de ce spectacle-là. Et qu'en fait, s'il n'y a pas de théâtre comme ça qui soutienne les créations, c'est compliqué pour les compagnies de construire leur spectacle. En fait, il faut ça. Et ça fait partie de nos missions en tant que scène nationale. Donc là, c'est juste, on va faire confiance à une équipe. Après, ça passe ou ça casse, hein, parce que le spectacle, peut-être que Jean-Paul va l'aimer, peut-être qu'il ne va pas l'aimer, mais c'est des risques à prendre. Et c'est dans nos missions. On se doit, en tant que scène nationale, de porter aussi des compagnies et soutenir la création. Donc là, ça va aller de la salle à disposition, l'équipe technique aussi, parce que là, il y a du gros matériel derrière. C'est la régie, parce qu'il y a de la musique pendant le spectacle, il y a de la vidéo qui est projetée. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en amont pour pouvoir faire que le spectacle existe. Le décor que vous voyez sur scène a été fabriqué dans l'atelier décor de la MC2. Après, il y a beaucoup de spectacles qui viennent avec leur propre décor. Don Juan, par exemple, il y a un camion qui est arrivé il y a 2 jours. Ils ont vidé le camion sur le plateau, puis là, c'est aux techniciens, bien sûr, de le monter.
Et comment décidez-vous s'ils feront l'objet d'une adaptation?
Alors après, c'est pas forcément le directeur qui va choisir lui, je veux que ce soit Don Juan. C'est parce qu'en fait, il y a régulièrement, je crois que c'est une fois par an, des réunions entre plusieurs théâtres en France, donc ça se passe à Paris, où justement les personnes vont plancher un petit peu sur quel spectacle, a priori, est possible de rendre en audio description, parce qu'il y a beaucoup de spectacle où c'est pas forcément faisable, et aussi au niveau de l'accessibilité. Comme ça coûte cher, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté justement pour toucher le plus grand nombre de publics. Donc on va essayer de se dire, les spectacles choisis pour l'audiodescription, c'est plutôt des spectacles grand public et plutôt accessibles. Donc c'est aussi comme ça, c'est pas juste la MC2 qui va choisir, c'est dans une sorte de collectif en fait, qui se passe à Paris. Ça c'est pour l'audiodescription. Après, bah, comme je disais tout à l'heure, pour Dormir 100 ans, c'est pas forcément la MC2 non plus qui a choisi directement, à part si ils ont choisi d'accueillir cette compagnie, mais c'est la compagnie qui venait avec la personne qui signait en direct. Et après, voilà, en même temps, c'est la MC2 qui met l'argent aussi, donc évidemment, elle est dedans, mais elle peut pas décider seule, en fait. Parce que du coup, je dis n'importe quoi, Don Juan va jouer dans 20 théâtres en France. Les 20 théâtres se partagent la note de l'audiodescription. Parce que ce qui est long à faire et ce qui coûte cher, c'est l'enregistrement, en fait, de cette audiodescription. Une fois qu'il existe, après, bah voilà, c'est dans le casque et puis après, ça existe, quoi. Après, c'est pas forcément sur la durée et tout, parce que là, le spectacle dure 2h30. On aurait aussi pu se dire, bah, les spectacles qui sont l'audiodescription, c'est les plus courts pour que ça coûte moins cher et tout ça. Et là, on voit que c'est pas forcément le cas. L'audiodescription sur un spectacle de 2h30, c'est plus long aussi. Et c'est bien que ce soit Don Juan, je pense. Et après, là où c'est pertinent, c'est que comme on propose aussi des visites tactiles, s'il y a un décor, c'est mieux. Parce que du coup, s'il n'y a pas de décor, enfin, tant qu'à faire, autant aussi en profiter pour découvrir aussi, aller sur un plateau de théâtre et tout ça.